les jardinières.
Bonjour à tous, bonjour Eileen.
Bonjour Sandra, nous sommes ensemble ce matin avec notre invité Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Jean-Pierre, bonjour.
Jean-Pierre, bonjour. Avec le micro allumé, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux, merci Sandra.
C'est gentil, merci au team.
Vous ne savez pas ce que vous devez faire côté jardin. La météo ne vous aide pas à vous y retrouver ces temps-ci. Que planter, que semer? Est-ce qu'il faut sortir sa tondeuse? Est-ce qu'il faut tailler ou non? Voici autant de questions que vous vous posez peut-être. Des questions qui ce matin, comme chaque samedi, ne resteront pas sans réponse. Avec Jean-Pierre, nous allons tenter au mieux de pallier à tous vos soucis de jardinage.
Jean-Pierre est là pour nous apporter ses conseils, mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors c'est le moment pour vous de nous appeler dès à présent par téléphone en composant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, et cela jusqu'à 8 heures. Si vous faites partie des timides et que cela vous gêne de poser votre question en direct, vous pouvez opter pour les SMS en nous envoyant votre question par SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question justement, et vous nous envoyez tout ça au 939. Et pour ceux qui en avaient cette semaine, vous avez fait comme d'habitude par formulaire via notre site internet, un formulaire que vous pouvez toujours encore utiliser durant toute l'émission.
7h, 8h, les jardinières.
Bienvenue chez les jardinières, jusqu'à 8h, on ne va pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs, on s'occupe de la vôtre. Et par formulaire, cette semaine, vous en avez parlé Eileen, nous avons Paul qui a des soucis avec...
Ces hortensias, ils ont souffert du gel et ils voudraient savoir s'il y a une solution pour qu'ils aillent mieux, ou si au contraire, il n'y a plus d'espoir du tout. Il nous précise qu'il habite aux Franches-Montagnes. Alors Jean-Pierre, vous avez une petite idée?
Oui, bien sûr. Alors bonjour Paul. Le froid qu'on a vécu il y a 10 jours maintenant a occasionné énormément de dégâts sur tout ce qui était de végétaux avancés dans les hortensias, les magnolias, les noyers, les érables japonais, même les pousses des buis ont gelé. Alors pour les hortensias, ils vont redémarrer, c'est pas dramatique. Simplement, pour le moment, il faut qu'il laisse aller sa plate-bande telle qu'elle. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines, quand on aura le redémarrage des nouvelles pousses, à ce moment-là, il pourra tailler, nettoyer les éléments qui ont desséché par le froid. L'élément qui a gelé, c'est uniquement les pousses herbacées, les nouvelles pousses printanières. L'élément ligneux, le bois en lui-même, lui n'aura pas occasionné de dégâts chez l'hortensia, parce que chez d'autres arbustes, il y aura certainement plus de dégâts. Après, c'est vraiment très, très local. Ça veut dire que vous pouvez avoir vos hortensias à vous qui ont gelé parce qu'ils étaient un peu exposés dans l'angle de votre villa. Et puis le voisin qui les a à l'opposé de sa villa n'aura pas énormément de dégâts sur sa plate-bande. Mais pour le moment, c'est stand-by, on ne fait rien, on laisse redémarrer la végétation et puis après on pourra s'amuser à nettoyer les éléments secs.
Jean-Pierre, vous êtes là pour répondre aux questions des auditeurs jusqu'à 8h, et d'ailleurs des questions on en reçoit notamment par SMS, on vient d'en recevoir un. La personne nous demande, la cendre de bois peut-elle être un engrais pour les fleurs ou les arbres fruitiers?
Oui, non. La cendre, elle est neutre au niveau des éléments nutritifs. Elle peut mélanger au sol et être utilisée à des fins d'aération un peu de sol, mais en tous les cas pas au niveau nutritif. Vraiment pas, non.
Et Marilyn qui nous a écrit cette semaine par formulaire. Marilyn, elle aimerait savoir, elle est de l'habitat Cressier. Elle a taillé son pied d'éléphant. Marilyn, je crois qu'elle avait déjà eu des soucis avec son pied d'éléphant et c'était avec vous qu'on avait essayé de régler le problème. Alors, elle a taillé son pied d'éléphant parce qu'il avait des taches blanches poisseuses sur les feuilles. Et au niveau de la repousse, les feuilles qu'elle voit actuellement sont pleines de poudre, de la poudre similaire à de la sûre. Elle voudrait savoir ce qu'elle doit faire.
Oui, alors j'imagine bien que c'est de la cochenille floconneuse qui se développe sur son pied d'éléphant. Il est évident qu'au printemps, tout démarre, y compris la végétation, y compris les parasites. Les parasites, pour se reproduire, dorlotent effectivement les nouvelles pousses qui sont très tendres et riches en sucre. Et puis, elle a une très forte attaque de cochenille. Pour la combattre, il faut qu'elle achète dans les commerces spécialisés des produits à base d'huile minérale qu'elle asperge son pied d'éléphant. Ça va asphyxier les parasites. C'est une huile qui arrive à boucher les pores du parasite. Et puis, par asphyxie, le parasite va disparaître. Mais après, il faudra qu'elle le renouvelle, en tout cas dans les 15 jours, 3 semaines, parce que les œufs, des œufs latents, volcans seront toujours là et puis il faudra combattre un certain temps.
Mais dans ce cas-là, ils sont allés se déposer où les œufs? Ça n'a rien à voir avec le... Elle n'a pas besoin de replanter son pied d'éléphant, donc elle ne s'occupe que des feuilles.
Oui, alors que de la partie végétative, effectivement, les cochenilles ne sont en tout cas pas dans le terreau. Ils se trouvent sur le long des éléments en bois ou sur les feuilles ou dans les noyaux des nouveaux bourgeons qui se développent.
Alors ben voilà, j'espère que Marilyn pourra pallier au mieux pour ce problème. Et puis ben, on est toujours là pour Marilyn et son fameux pied d'éléphant. On espère qu'il reprendra. Et Eline, du côté de Marin aussi, on a une question.
Oui, une question de Corinne qui voudrait planter des fleurs exotiques autour de sa maison. Est-ce que c'est mieux de les mettre à même le sol ou faut-il les mettre en pot? Elle n'a pas précisé quelle fleur exotique, hein, d'ailleurs. Mais...
Oula, bonne question, oui. Alors, si c'est des fleurs qu'il faudra rentrer à l'automne, le mieux, le plus pratique, ce sera peut-être de les poser dans des pots. Le gros désavantage du pot, c'est que durant l'été, ça occasionnera un arrosage constant avec une mise en place d'engrais. Si c'est des fleurs, je ne sais pas dans quel type de fleurs elles souhaitent partir. Si c'est des fleurs qui passeront l'hiver, alors évidemment, elle a le meilleur temps de les mettre dans le terrain naturel. Ça épargnera tous ces soins irrelatifs et puis la végétation s'en portera d'autant mieux.
Parmi les fleurs exotiques qu'on peut planter par ici, lesquelles conseillez-vous si on veut justement faire quelque chose d'un peu plus exotique?
Oh, si elle parle dans les fleurs, dans ce qui est végétatif, dans les palmiers, dans les bananiers, dans les nériums, là, les lauriers fleurs, c'est souvent des plantes qui passent mal chez nous. On arrive à en protéger une partie, mais comme l'hiver qu'on a eu ce mois de janvier, il y aura énormément de casse malgré les protections données à ces végétaux parce qu'on a eu 15 jours, 3 semaines de moins 15, moins 20 avec une bise constante. Donc là, on occasionne quand même énormément de dégâts. Il y a énormément de pertes dans ces végétaux qui ne sont pas très adaptés à notre situation.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes les questions des auditeurs, des questions que vous pouvez d'ailleurs poser soit par téléphone, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors vous nous envoyez un SMS, vous tapez tout simplement le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939.
Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, il est là pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas, Eline se fera une joie de prendre vos appels.
Exactement, vous pouvez nous appeler jusqu'à 8h, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous nous appelez au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors vous pouvez nous envoyer un formulaire via notre site internet si vous nous écoutez depuis internet ou alors vous pouvez tout simplement encore envoyer un SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939. Et d'ailleurs, des questions on en a reçues cette semaine, notamment de Laurent de Basse-Cour, qui a un gazon tout sec et tout jaune. Il a l'impression plus qu'il ne pousse plus. Que faire, Jean-Pierre?
Eh bien, bonjour Laurent. Il est vrai que les gazons ont particulièrement souffert l'été passé par le sec qu'on a eu, surtout sur les surfaces qui sont très arides et où il y a peu d'épaisseur de terre végétale. Alors si c'est le cas du gazon à Laurent, sur une surface où il y a peu de terre de mauvaise qualité et puis que son gazon a subi les effets du sec, le mieux en cette période c'est de faire une très bonne scarification, de faire un sursemis et puis de lui mettre un bon épandage d'engrais de pré-semis pour favoriser une pousse rapide des éléments, d'autant plus qu'on a une humidité fantastique durant le mois de mai, et puis il va récupérer son gazon. Il faut le faire dans le mois de mai parce qu'au-delà du mois de mai, dans les périodes de juin-juillet, il faut s'imaginer qu'une semence qui est posée sur le terrain avec une température de 25-30 degrés, elle a très vite tourné en paille, ça veut dire qu'elle ne va pas redémarrer. Et le germon de la semence des premières journées de démarrage est très très sensible et vulnérable à cela. Par contre, on a aussi eu énormément de dégâts sur les pelouses l'été passé, des vers de hanneton, le ver blanc. Alors ça, il peut le contrôler facilement s'il a eu ce phénomène, parce que si il essaie d'arracher le gazon puis qu'il vient facilement, qu'il n'a plus de racines, il aura eu ce phénomène-là sur sa pelouse. Dans ce cadre-là, si avec un petit sondage, il ne trouve plus de vers de hanneton, eh ben, il peut pratiquer de la même manière, donc avec une bonne scarification sur semis en grès et arrosage. S'il lui reste des vers blancs dans la surface à réensemencer, il faut qu'il se retourne auprès des commerces locaux pour trouver des produits qu'on arrive à épandre avec un arrosage pour combattre justement ce vers blanc et puis ensuite eh bien, faire le sursemis.
Merci Jean-Pierre Barbexa, il va retrouver un magnifique gazon. Et après le gazon, on va parler des framboises. Il y a Paola Ducloc qui a planté des framboisiers, les a plantés sur un endroit un peu pentu. Et il y a des trous autour de ces framboisiers. Elle soupçonne des souris, mais elle n'est pas sûre. Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et déjà, est-ce que vous pensez que ce sont des souris?
Oui, alors très certainement, c'est là des galeries qui arrivent à s'élever au niveau de sa plate-bande de framboises. Maintenant, peut-être le choix aurait été plus judicieux de planter ces framboisiers à même le sol et de ne pas les buter, parce que le framboisier est une plante qui se raffole des éléments frais au niveau du sol et puis passe sur une butte qui peut s'assécher durant l'été et puis où le framboisier aura un peu de la peine à se développer. Après, si vraiment ces galeries mènent donc sur des éléments tels que la souris, si c'est une petite souris des champs, elle arrive à le combattre facilement avec du blé empoisonné qu'on trouve dans les commerces. C'est un blé enrobé de bromadiolone qui fait périr la souris. Et puis, si c'est des taupes ou des campagnols, soit des fumigènes qu'elle trouvera aussi dans le commerce ou alors des trappes. En tous les cas, si elle a paillé sa plate-bande de framboises, c'est d'autant plus évident qu'elle aura des ravageurs de ce genre, parce que le paillage amène une super protection à tous ces petits ravageurs. Le mieux est quand même de combattre le ravageur et de laisser le mulchi, le paillage sur la plate-bande de framboise, parce que vraiment, la framboise va se ravigoter des éléments frais, donc un paillage est tout d'autant plus nécessaire pour le framboisier.
Je ne connais pas du tout Paola, mais imaginons que ça lui fait vraiment de la peine de se débarrasser de ses souris de cette manière. Est-ce que si elle ne fait rien, ça va causer d'importants dégâts?
Alors ça dépend de la qualité de sa plate-bande. S'il y a un super mulchi, donc un super paillis de paille, de tourbe sur cette plate-bande de framboise, évidemment que tous ces ravageurs vont arriver dans cette zone. Si la qualité de la plate-bande est moindre, il y aura un petit peu de la souris, pas forcément une invasion.
Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère qu'elle va soit se débarrasser de ses souris, soit refaire un paillage, si ça lui fait mal au cœur de se débarrasser de ses petites souris. Éline, on le rappelle à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, donc ils peuvent nous appeler sans autre.
Exactement, vous pouvez nous appeler, hein, n'hésitez pas, si vous avez un problème avec votre jardin, hein, que ce soit le gazon, un arbre fruitier ou même une plante d'intérieur, n'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 ou alors vous pouvez toujours encore opter pour l'option SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez tout ça au 939, on y répondra avec grand plaisir juste après une petite pause musicale et le temps de faire le point sur le ciel et les routes.
Les jardinières.
Des jardinières en forme qui sont de retour, donc pour pallier à tous vos soucis de pelouse, de jardin potager ou encore d'arbres fruitiers. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie ce matin de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, qui est là pour répondre à tous vos questions et à pallier à tous vos soucis. Éline vous le rappelle, elle vous rappelle ce qu'il faut faire si vous voulez donc poser vos questions.
Oui, on vous donne tous des conseils personnalisés si vous nous appelez par exemple au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez tout simplement le mot jardin suivi d'un espace et de votre question et vous nous envoyez tout cela au 939. Et durant notre pause musicale, on a reçu un appel de Jacqueline de Kourou. Jacqueline qui nous a posé une question durant la pause musicale. Elle demande comment combattre le chien-dent parce qu'elle en a pas mal au niveau de ses arbustes et des fleurs. Elle dit même qu'elle a été envahie par ce chien-dent et puis elle précise qu'elle est sûre que c'est du chien-dent parce qu'elle a demandé à quelqu'un et puis ce quelqu'un lui a dit oui, c'est du chien-dent, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser.
Oui, alors voilà, bonjour Jacqueline. Le chien-dent est une graminée hein, qui n'est pas trop intéressante effectivement parce qu'elle se développe par des stolons souterrains que malgré un désherbage énergique, on n'arrive de toute façon pas à le détruire par le fait de ses ramifications qui sont innombrables. Alors, si c'est dans des massifs de plantes vivaces ou de plantes à fleurs, là, on a un produit qui existe dans le commerce. Alors, je ne sais pas si vous allez le trouver dans des petits emballages, mais le nom spécifique qui s'appelle Agile, A-G-I-L, L'utilisation se fait à raison de 1%, ça veut dire 1 déci pour 10 litres ou 1 centilitre pour 1 litre. Vous pulvérisez votre herbicide sur ce chien-dent. Il va périr, d'autant plus si vous le faites en pleine pousse printanière telle que maintenant. Il va périr pas à la vitesse des herbicides standards qu'on connaît tels que les désherbants totaux, mais il va périr. Il va décliner gentiment, il va disparaître dans vos plates-bandes sans souci. Après, si vous avez ce chien-dent dans un gazon, là, tout simplement, par la tonte, il va pas supporter parce que c'est pas une graminée qui supporte de se faire ratiboiser chaque semaine avec une tondeuse. Donc, de ce côté-là, vous avez pas de souci. Et puis, si c'est dans des arbustes, eh bien, le produit agile va de nouveau pourra être utilisé parce que c'est un sélectif qui prend que la graminée. Alors c'est d'autant plus important de ne pas l'utiliser dans votre pelouse par exemple parce que par le fait que c'est un anti-graminée, il aura la capacité de détruire tout ce qui est des graminées de votre pelouse et puis il va vous laisser tout ce qui est des plantains, des trèfles et des pâquerettes. Alors voilà, mais agile, super produit.
Je crois que Jacqueline a la solution à tous les problèmes qu'elle a avec ce chien-dent, en tout cas. Et puis Sandra, on a également reçu des SMS pendant notre pause musicale.
Oui. J'arrête-vous là, Sandra. Oui,
on a oui, reçu. J'espère qu'on
en fait, j'étais un peu perturbée. Je vais quand même dire à ceux qui nous écoutent parce qu'il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de nom. Donc, sur ce SMS, mais c'est une personne qui aimerait savoir comment elle doit utiliser son fumier de cheval comme engrais. Elle aimerait utiliser cet engrais et puis elle aimerait savoir comment elle doit l'utiliser, ce fumier de cheval.
Alors, bonjour à la personne qui a le cheval. Le fumier de cheval est intéressant, mais uniquement en épandage superficiel sur le terrain. On le mélange jamais dans le terrain parce que c'est une matière qui est en décomposition, qui est en début de décomposition, faut le comprendre. Et puis pour se décomposer, il va partir en fermentation, il va amener passablement de champignons, il va même bloquer un peu des azotes au démarrage, qui va être négatif pour la végétation. S'il est très pailleux, c'est d'autant plus important de laisser un peu se décomposer. Après, si vous arrivez à avoir un tas de fumier qui s'est décomposé depuis 4-5 mois, à ce moment-là, vous pouvez le prendre et puis l'incorporer par passage de motoculteur dans votre potager ou le mélanger dans du terreau. Mais il faut vraiment que sa décomposition soit déjà très avancée. Voilà.
Donc, il faut le laisser, entre guillemets, mûrir pendant plusieurs mois, comme vous nous l'avez conseillé.
Alors oui, un fumier bien mûr peut s'utiliser à peu près à tout escient, au niveau potager, au niveau mise en plante dans les pots avec les terreaux. Par contre, s'il n'est pas du tout décomposé, c'est vraiment que du mulchi, par exemple, sur une plate-bande de framboise, comme la personne qu'on a eue tout à l'heure qui nous posait les questions, ou dans un massif de plantes de vivaces ou tapissantes, ou même dans les rosiers, mais vraiment superficiel s'il n'est pas décomposé.
Ça fait un moment que vous parlez de mulchi, donc pour tous ceux qui nous écoutent qui ne savent pas ce qu'est le mulchi, vous pouvez donner quelques précisions, Jean-Pierre ?
Ah oui, bien sûr, le mulchi, c'est l'action de mettre une couverture sur un sol. Alors, ça peut être à l'aide de déchets de tonte, quand vous avez passé votre tondeuse, ça peut être avec des feuilles mortes que vous aurez ramassées durant l'automne, ça peut être avec un fumier, ça peut être un compost que vous avez soit chez vous, soit dans les centres de ramassage qu'on a maintenant au niveau régional. Il y a des super composts qu'on arrive à utiliser dans les mulchis. Il faut juste savoir que si c'est au niveau des composts, plus le tas du compost sera grand, plus le mulchis sera intéressant, parce que par le fait du volume du compost, le tas va partir en température jusqu'à 50-60 degrés, et puis toutes les semences de mauvaises herbes et les racines indésirables seront détruites. Par contre, si vous avez un tout petit compost derrière chez vous, dans votre coin de potager, ce sera un petit peu plus compliqué d'avoir cette température, et puis là, vous avez un risque de répandre un petit peu des plantes indésirables dans les surfaces dont vous voudrez utiliser ce mulchi. Mais après, le mulchi a une quantité d'avantages, il vous évite toute la pousse annuelle des plantes indésirables, il va combattre également les plantes vivaces telles que chien-dent, raie gras, tout ce qui est des mauvaises herbes qu'on ne souhaite pas dans une plate-bande, et puis il va garder vraiment l'humidité au sol. Alors après, juste encore ceci, si vous utilisez, comme ça peut se faire maintenant avec les plaquettes de chauffage, les copeaux de bois, si vous utilisez ce produit pour faire un mulchi, il faut surtout le laisser en surface et jamais les incorporer au sol, parce que de nouveau, des éléments qui sont en décomposition vont vous bloquer une partie des éléments nutritifs du sol, qui vont créer une carence, donc un manque d'éléments nutritifs à vos végétaux. Par exemple, si vous utilisez dramatiquement des copeaux dans une plate-bande de framboises et puis que vous les mélangez un petit peu au sol, vous allez avoir une plate-bande de framboises qui va plus se développer, puis vous aurez un feuillage qui va même venir très jaune, puis vous allez vous poser un milliard de questions, puis ce sera uniquement le problème du copeau qui sera en décomposition.
Ben merci beaucoup pour ces informations, on va s'endormir ce soir un peu moins bête que au réveil ce matin.
Et nous, on attend justement vos questions, si vous en aviez, on est encore ensemble pendant quelques minutes. Vous pouvez soit nous les poser par SMS, vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez tout ça au 939, ou alors, si vous nous écoutez depuis notre site internet, vous pouvez trouver le formulaire de contact sous l'onglet émission. Et troisième possibilité, pas des moindres, n'hésitez pas à nous appeler pour poser directement votre question à Jean-Pierre. Vous nous appelez au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Mais le show n'est pas fini puisqu'on continue de répondre à toutes vos questions. On attend vos coups de fil ce matin concernant donc vos problèmes de jardin. Apparemment ce matin vous n'en avez pas beaucoup des problèmes puisqu'il y a très peu d'appels, il n'y en a même pas du tout. Mais par contre du côté des SMS ça bouge, Eileen.
Exactement, n'hésitez pas à nous envoyer vos SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez tout ça au 939, comme vient de le faire Nicolas Dulondron qui nous demande s'il doit changer la terre de son cactus, car son cactus, un peu du jour au lendemain, est devenu tout brun. Il l'a arrosé, mais ça n'a pas arrangé les choses. Du coup, il se demande s'il peut sauver son cactus en lui changeant la terre. Jean-Pierre.
Oui, alors bonjour Nicolas. Effectivement, si votre cactus a tourné du pas à trépas en une période très courte, peut-être il aura été exposé au gel printanier qu'on a eu récemment. Il faut savoir que le cactus est une réserve d'eau donc qui est canalisée dans les éléments verts du cactus. Et puis si par mégarde le cactus prend le froid puis qu'il gèle, et ça éclate les tissus dans lesquels se trouve cette eau et puis le cactus périt. Alors, c'est très certainement ce problème qu'il aura eu. Après, s'il n'a pas subi ce froid printanier, et puis que quand il a voulu sortir son cactus du coin du garage pour le remettre au soleil, et puis qu'il l'a trouvé sec, c'est qu'il a vraiment manqué d'eau quand même durant l'hiver. Il faut savoir que le cactus n'apprécie pas du tout l'eau stagnante. Hein, il aime vraiment les sols très sablonneux, très très drainants. Mais il aime quand même de temps en temps avoir une petite averse, une petite douche. Et puis si durant tout l'hiver, il n'aura pas emmagasiné un petit peu d'eau qui lui sera arrivé par les airs, il n'aura certainement pas pu supporter le potentiel qui lui restait à lui-même et puis il a séché. Donc je pense que le mieux c'est de remplacer son cactus.
Ah bah mince alors. Bah, c'est une solution comme une autre. Hein. J'espère que Nicolas n'est pas trop triste de se débarrasser de son cactus.
Et finalement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des cactus parce qu'il ne faut pas soi-disant s'en occuper. Mais en fait, quand on voit ça, c'est pas le cas.
Ah non, quand même, ça demande un petit peu des soins, les cactus. En tout cas, au niveau de l'arrosage, hein, faut pas les oublier trop longtemps, sinon vous aurez aucune chance d'avoir une pousse respectable, d'autant plus qu'il pourra même périr s'il manque d'humidité. Après, on aime bien avoir les cactés dans des pots en terre cuite et pas en plastique, parce que le fait du pot terre cuite va jouer l'effet régulateur de l'humidité, tandis que le pot en plastique, il va rien du tout faire. Au contraire, il va plutôt être asphyxiant au niveau des racines pour le cactus.
Eh bien, merci pour Nicolas et merci pour nous. Comme ça, on en sait un peu plus, tout ça encore. Du côté du standard, ça ne bouge pas. Il nous le rappelle peut-être.
On rappelle que vous pouvez nous appeler justement. On est encore ensemble pendant quelques minutes. N'hésitez pas. C'est au 0901 70 20 20 que vous pouvez joindre les jardinières et surtout Jean-Pierre Ribaud qui est notre invité, qui est paysagiste à Queuve. Et puis il est là pour répondre à toutes vos questions et vous donner des conseils personnalisés. Vous pouvez également demander vos conseils personnalisés par SMS, tout simplement en tapant le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout cela au 939. On vous attend encore pendant quelques minutes.
Et si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont profité du seul jour de la semaine de soleil pour aller dans votre jardin ou pour tondre votre pelouse, eh bien, comme aujourd'hui, le temps s'annonce plus que moche, est-ce que vous avez quelques conseils, Jean-Pierre, pour ces personnes, en plus de se couvrir et d'aller dehors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par un temps pareil dans leur jardin?
Ou pas grand chose, peut-être par temps humide comme on vit ces temps, le désherbage est très facile parce que la plante que vous souhaitez arracher ne tient pas très bien dans le terrain, le terrain est vraiment humide et puis vous arriverez à arracher passablement la racine, donc un petit désherbage, ça c'est très facile, manuel bien sûr. Admirer peut-être le dégât malheureux du froid qu'on a eu il y a 10-15 jours maintenant, de nouveau là... Et on a énormément de dégâts sur les érables japonais, sur les magnolias, sur les hortensias, on a dit tout à l'heure, sur les glycines, sur les noyers. Alors, toutes ces plantes qui ont subi ce froid, pour le moment, il faut les laisser stand-by, il faut laisser redémarrer cette végétation. Malheureusement, tous ces éléments qui ont gelé auront pris garde de détruire également toute la floraison de cet été. Hein, donc, tout ce qui est hortensia, on n'a pas dit tout à l'heure à l'éditeur qu'on a eu, mais l'hortensia gelée n'aura plus du tout de boutons possibles cette année parce que ces boutons floraux se sont développés durant l'été 2016. Et puis ce printemps devait partir pour s'épanouir. Alors, tout ce qui est de floraison va disparaître. Le magnolia, on n'en parle même plus. Il est tout brun sur tige. La glycine, pareil. Le noyer, pareil. Il faut les laisser revenir à eux-mêmes. Ils vont redémarrer avec des bourgeons latents qui se trouvent sur les éléments. Et puis, d'ici 15 jours, 3 semaines, on pourra nettoyer au sécateur les petites parties desséchées de ces végétaux. Mais il y aura quand même un peu de case, j'imagine, selon les endroits dans lesquels se trouvent ces végétaux. Si je prends l'exemple d'un érable japonais qui était planté peut-être sur une surface exposée vraiment au froid. Et puis quand même, quand on avait ces températures estivales, printanières, il a pris un peu d'avance par rapport aux autres. Celui-là pourra peut-être être totalement gelé. Et puis d'autres vont redémarrer, comme le noyer Paris.
Jean-Pierre, on vient de recevoir un SMS d'une personne qui nous demande « J'ai des grandes larves blanches dans le bac à fleurs sur le balcon. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire comment les éliminer ?» Alors, vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait être comme larve qui se trouve dans un bac à fleurs ?
Alors, j'imagine qu'à cette période, c'est de nouveau les larves de hanneton. Hein. On a dit tout à l'heure, c'est le printemps, tout démarre, y compris les parasites qui se mettent en mouvement pour arriver à s'épanouir et puis pour repondre pour les années futures. Alors, si c'est les larves de hanneton, on peut dans un pot facilement faire une lutte biologique en sortant la plante du pot et puis vous laissez votre plante une après-midi en dehors de son pot, vous allez voir les larves qui devraient arriver à sortir, vous arriverez même à les enlever à la main pour les éliminer. Et puis si vous n'arrivez pas, ou si le pot est trop grand, ou si vous n'arrivez pas à dépoter votre plante, eh bien de nouveau un insecticide par arrosage que vous trouverez dans les commerces spécialisés vont avoir raison de ce parasite. Après, le ver blanc, il aura causé un peu des dégâts sur la racine du végétal, mais on n'est pas en présence de... Enfin, j'imagine qu'il n'en a pas une quantité excessive pour arriver à poser un trop grand dégât sur son végétal, pour autant que le végétal soit enfin d'une grandeur acceptable. Je ne sais pas, il faudrait voir l'élément pour vraiment conseiller au mieux, mais de toute façon, un arrosage d'insecticides ou une lutte manuelle, voilà.
Merci Jean-Pierre. En tous les cas, vous avez conseillé au mieux ce matin. Ils étaient nombreux à nous envoyer des SMS ou via les formulaires. Un grand merci d'avoir été présent ce matin. Un grand merci de vous être levé tôt. Après cette fête qui est celle de votre village. Et un petit clin d'œil, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jardinage nu. Alors, on ne vous dira pas, à vous qui nous écoutez, si nous sommes vêtus ou pas pour cette émission, si nous l'avons faite nu ou pas. Mais un seul conseil aujourd'hui, si vous jardinez, tous à poil. Belle journée, à la semaine prochaine. Bon week-end, merci.
7h, 8h, les jardinières.